bonjour. J'ai un chat dans la gorge ce matin. Alors, eh bien oui, vous êtes sur le réseau FM+, ce réseau réuni de Radio Alliance Plus à Nîmes sur le 103.1 et FM+ à Montpellier sur le 91 de la bande FM. Tous les vendredis à 10h30, retrouvez Scénorama, émission dédiée à l'actualité culturelle, avec rediffusion le samedi à 12h10 et écoutable en podcast sur fmplus.org. Aujourd'hui, j'accueille Axel Caruso et Sébastien Lantéric du Nu Collectif. Ils vont nous présenter leur création K1, C-A-S-1, un concert-performance autour du corps où vidéo, art plastique, musique et théâtre s'entremêlent, à découvrir vendredi 27 février à 20h au Chez du Terral à Saint-Jean-de-Védas. En seconde partie, Sébastien Paul, président du festival Tropisme, nous dira tout sur cette seconde édition qui déploie sur 3 semaines, du 25 au 15 mars, une vaste machine à habiter, un terrain aux allures de caravansérail, le tout à la panacée principalement et en entrée libre. Axel Caruso, vous êtes, bonjour, metteur en scène, plasticienne, scénographe. Sébastien Lantéric, vous êtes metteur en scène, comédien, performeur. Vous faites tous deux partie du Nu Collectif. Pour la plupart de vos projets, vous ne cherchez pas à montrer tel ou tel texte d'auteur, mais à vous laisser traverser par leur univers, leur vie. Vos créations sont toujours faites d'expérimentation, l'interdisciplinarité est au centre de vos recherches et nous en avons une nouvelle fois la preuve avec cette création K1. Alors, votre travail s'est directement inspiré de Claude Cain, justement, photographe, écrivaine de la première moitié du XXe siècle, oui. Si je me trompe. Vous pouvez nous la présenter un peu plus, hein?
Bien sûr, Claude Cain donc, est une artiste un peu atypique, on va dire, qui a vraiment... écrit et photographié, enfin en tout cas a développé son travail dans l'entre-deux-guerres. On peut dire que c'est une contemporaine des surréalistes et qu'à la fois elle était contemporaine des surréalistes, elle en faisait partie, mais elle restait à la marge de ce mouvement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Claude Cain? Claude Cain, c'est vraiment une figure étonnante. Parce que c'est une des premières en France, en tout cas, à avoir travaillé sur ces histoires d'identité et de genre, alors que très peu de personnes s'y intéressaient. Elle n'est pas exactement dans le mouvement des surréalistes, mais elle utilise aussi tous les outils que les surréalistes ont développés pour créer. Mais elle s'intéresse principalement à brouiller son identité féminine, masculine, à travailler sur, que ce soit dans ses textes ou dans ses œuvres photographiques, à brouiller vraiment les codes très très figés en fait de l'identité, notamment à cette époque-là, et à créer un entre-deux, une sorte d'identité entre-deux qui nous a complètement intéressés pour ce projet-là.
Oui, donc c'est d'abord la rencontre avec son travail qui vous a donné, qui vous a inspiré, qui vous a donné envie de créer ce spectacle. Comment voilà est né Cain?
C'est la découverte avant toute chose d'un bouquin qui regroupe l'ensemble de ses textes, qu'ils soient nouvelles ou haïkus, et puis la découverte effectivement de son travail photographique, et puis c'est surtout en fait son personnage en lui-même, sa biographie qui nous a intrigués, qui ne nous a pas menés directement sur l'idée de ce spectacle, mais sur la volonté de faire quelque chose autour de cette notion de multiplicité. L'identité qui jamais n'a besoin de se définir, de s'attacher à une définition, mais qui toujours en fait se cherche et se construit. Et effectivement, K1 nous a amené à K1, qui n'est ni un spectacle, ni un concert, ni une performance, mais qui fait partie de ces données-là.
Oui. Alors, dans K1, il est question du genre, un fait de société polémique qui existe depuis bien longtemps. Et donc, il s'agit d'un travail sur l'imaginaire autour d'un corps qui se transforme, donc entre autres le corps de Mathias Belair. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mettre en scène cette forme que vous intitulez, mais vous l'avez dit vous-même, bon, il faut bien donner des titres ou des gens, bon, voilà, c'est pas, on peut pas dire, ça peut être présenté comme concert-performance, mais ce n'est pas que ça, puisque l'interdisciplinarité est vraiment au cœur de ce spectacle et que chaque discipline a sa partition.
Alors, si on part du principe que Claude Cain, à travers photographie et texte, s'est cherché, s'est découverte, s'est déconstruite, puis reconstruite, transformée et changée, nous, on est parti sur ce principe-là, actif avec notre équipe au plateau. À savoir Jean-François Blanquet, qui est un agitateur sonore, qui génère en fait chaque fois une forme musicale sonore différente, mais qui épaule toujours et suit toujours Mathias Belair, qui lui-même va s'adapter à la réactivité de Jean-François, qui sont tous deux en écho au groupe Labrador, qui lui, en filigrane, développe une forme beaucoup plus, on va dire, douce et délicate de cet être en devenir. Toute cette équipe au plateau va générer, au fur et à mesure, de la réactivité, en fonction des échos des uns des autres, et surtout, en fait, une nouvelle donne de lecture ou de prévu à ce que peut être ce spectacle, en tout cas cette histoire.
Ce spectacle, en fait... On l'a voulu un peu comme un concert, effectivement, parce que on s'est demandé aujourd'hui si on devait parler de la mythologie du genre, qui serait le plus proche des représentations mythologiques qu'on se ferait aujourd'hui. Et c'est vrai que pour nous, il nous semblait assez clair que cette mythologie se plaçait dans la musique, et notamment dans la musique pop, et effectivement. Que ce soit des exemples comme David Bowie ou Anthony and the Johnson, pour nous représenter un peu ces sortes de figures que la plupart des gens peuvent accepter sans même se poser la question des histoires de genre, etc. Et ça nous intéressait de dépasser d'ailleurs ce débat polémique, de dépasser cette polémique et d'être plutôt dans une poétique. Et pour développer cette poétique de la multiplicité des identités qu'on peut chacun porter en nous, on a donc décidé effectivement de développer cette sorte de trinité, on pourrait dire qu'il y a même quatre pôles dans le spectacle, puisqu'il y a aussi
le pôle vidéo
qui est aussi une sorte de développement d'une sorte de pensée intérieure du personnage. Donc voilà.
À la fois l'environnement social et la multiplicité effectivement à l'intérieur de ce personnage.
Alors nous allons décortiquer tout ça. Avant, je propose un extrait, puisque comme d'hab, je me suis faufilé au chez du Terral pour vous voler du son. Mmh. Et donc nous allons entendre Mathias, et ce sera suivi d'un morceau des Labradors. Mais vous nous situerez tout ça ensuite.
Tout à fait.
Around the sea.
sur le réseau FM+. Un extrait du groupe Labrador, qui est vraiment un groupe étonnant. Enfin, je trouve que c'est magnifique musicalement, c'est vraiment super beau. Sébastien, est-ce que vous voulez nous expliquer votre rencontre avec ce groupe, pourquoi vous les avez choisis, et aussi j'aimerais bien que vous nous traduisiez ou nous donniez, enfin nous disiez de quoi parle cette chanson, parce que rien n'est gratuit, voilà, dans ce spectacle, non. C'est pas pour rien que c'est, enfin voilà, nous situer le moment et pourquoi, et tout quoi.
Ouais, allez, on va essayer d'être concis et précis. La rencontre avec Labrador s'est faite par l'intermédiaire de Jean-Michel Portal, que je connaissais, qui m'a fait écouter ses compositions avec un groupe, avec son nouveau groupe à l'époque, hein, puisque ça fait 5 ou 6 ans que j'ai découvert Labrador. Et Jean-Michel Portal est un acteur, mais c'est aussi effectivement un musicien qui avait eu d'autres groupes quand il était plus jeune. Et il m'a fait écouter les premières compositions et j'ai trouvé qu'effectivement il y avait une sorte de poésie du son, de douceur, de sorte de une sorte de d'univers qui collait bien avec ce que j'imaginais d'une sorte de mélancolie et à la fois de poétique de ce que j'avais envie d'entendre en fait sur le plateau. Et donc je leur ai proposé de venir sur ce projet-là et de composer, donc on peut dire qu'ils ont composé quasiment un album, hein, pour K1, hein, puisqu'ils ont quasiment 8 à 10 titres, on les exploite pas tous. Et du coup voilà, je leur ai proposé de rentrer dans l'écriture du projet, puisque c'est une écriture à plusieurs voix, hein, on parlera certainement des auteurs plus tard. Mais il y a donc les auteurs sur lesquels on a travaillé, Claude Cain et les autres dont on parlera plus tard, et il y a aussi donc l'écriture des textes que Jean-Michel Portal a écrit, hein. C'est lui qui est compositeur et qui a écrit tous les textes en anglais du groupe Labrador. Et donc cette chanson qui ouvre, hein, qui est le premier morceau en fait chanté du spectacle, s'appelle Salmakis. Salmakis est la nymphe qui a transformé en fait Hermaphrodite en un hermaphrodite, hein, puisque voilà, c'était pour nous un point de départ, c'est-à-dire cette histoire ancienne qui est relatée dans les Métamorphoses d'Ovide et dont on entend Mathias juste. Mathias commence par cette phrase dans les antres du mont Ida, fut jadis nourri par les naïades. Un enfant, fruit des amours d'Aphrodite et d'Hermès. Et donc cette chanson raconte la rencontre entre ce jeune homme qui part découvrir le monde et cette nymphe qui tombe tellement amoureuse de lui qu'elle décide de le prendre avec lui dans sa nasse et de se fondre avec lui. Et du coup, voilà, il crée un être hybride, à la fois femme et à la fois homme. D'où le terme d'hermaphrodite, voilà.
Mmh. Donc, alors, ça. Alors on va écouter un extrait de texte, hein, dit par Mathias.
C'était un enfant révolté qui ne croyait plus au sommeil. D'abord, il avait douté de Dieu, de la liberté humaine, puis du monde matériel et de sa propre existence. Dieu avait disparu dans son ciel. Laisser le champ libre au hasard. Les objets n'avaient plus qu'une forme, une couleur et un toucher de rêve. Il n'était plus stable, solide, ni réel. de se confondre parmi leurs troubles. Et de s'en définir. Dans la nuit noire.
Dans la nuit noire.
Dans la nuit noire.
Un spectacle, un ovni, moi je veux dire. le spectateur, c'est clair, ne pourra pas oublier ce spectacle. C'est à voir au Chez du Terral le 27 février à 20h. Alors voilà, nous parlions d'écriture, texte à dire, texte à lire, texte à chanter, où la diversité du genre devient diversité de la langue. Donc là, ce texte, en l'occurrence, il est de qui ?
Et donc il est de Claude Cahun. Alors, avec les textes de Claude Cahun, on s'est permis en fait de les retravailler en fait, parce que elle a une écriture qui est de son époque. C'est donc une écriture assez datée.
Oui. Ceci dit, enfin, elle est décédée en 1954.
54. Mais les aveux non avenus sur lesquels on s'appuie, hein, puisqu'on a principalement puisé dans une des parties qui s'appelle Aveu non avenu, je crois date des années 30.
Je crois que c'est 37.
37 ou 34, je sais plus, mais en tout cas, voilà, a été écrit à ce moment-là. Et par contre, c'est une langue qui nous a paru très intéressante pour Mathias, parce qu'il arrive à la faire sonner en rapport avec les sonorités que crée Jean-François. Et cette langue, en fait, c'est pas une langue, c'est une langue qu'on peut lire, et c'est une langue qu'on peut dire, et qui devient très facilement une poésie sonore. Et c'était là où on a été vraiment très intéressé par Claude Cahun, c'est qu'elle a une puissance, dans des courts textes, très rapidement, de rentrer dans une poétique assez vaste et assez intéressante. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que on avait envie de continuer donc ce travail sur la poésie sonore et d'inviter d'autres auteurs à réfléchir avec nous et surtout à écrire autour de Claude Cahun, autour du genre. Et du coup, on s'est concentré sur deux personnes qui sont Orion Scoï, qui est un auteur de la région, et Isabelle Serinthe, qui est un auteur qu'on a découvert sur Internet, en fait.
Ah bon ?
Voilà. Oui, des fois, les rencontres sont assez étonnantes. Oui, oui. Alors, si je parle un tout petit peu des rencontres de ces deux auteurs, il y a eu Isabelle Serinthe, donc, qu'on a découvert parce qu'elle a écrit un texte qu'on utilise.
Qui s'appelle Je suis une créature.
Voilà. Je suis une créature. C'était un tout petit texte qu'on a découvert sur Internet et qui nous a complètement fait penser au projet, quoi. Parce que d'un seul coup, elle parlait du genre et elle disait que le genre était aussi un jeu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on oublie. Elle dit que dans l'enfance, on s'amuse à être quelqu'un d'autre et que ça ne pose aucun problème. Et puis quand on grandit, on oublie cette capacité qu'on a à jouer et qu'au final...
Quand on grandit, on est obligé de se définir envers l'autre et envers soi. On doit se caser, on doit être bien carré comme il faut. Mmh. Et du coup, on se coupe de nous-mêmes. Effectivement, ce texte de Serinthe aborde cette question-là comme une chose qui n'a pas lieu d'être, puisqu'on est des êtres en devenir et qu'on doit être en devenir jusqu'au bout.
On doit continuer à s'amuser avec nos identités. Et c'est dans la recherche de l'amusement et du jeu dans nos identités qu'on peut aussi développer de plus en plus notre identité, et que notre identité, évidemment, pour chacun d'entre nous, hein. Il n'y a même pas des histoires de genre, mais pour chaque individu, l'identité est un chemin qui se fait tout au long de la vie et qui n'arrête pas. Voilà, c'est cette parole qui nous a paru importante.
Alors je propose que nous écoutions un nouvel extrait, et c'est sur le réseau FM+.
Je refuse de résumer le monde en 5 lettres. Je ne me résignerai pas davantage. Avoir l'immonde rétréci à 5 sens, au 7e art, au 20e siècle. Tandis que le gros de l'humanité se multiplie sans trop d'efforts, le reste se fait opérer, soustraire ici, ajoute là, chirurgie chapelier, et aux douleurs, sacrifices cicatriciels, scarifie dans ta fesse. Tout sexe confondu, tricoté sous toutes les coutures, de greffes en griefs, C'est carrément de la folie, cette histoire.
K1. K1, oui, à découvrir, absolument. Alors, au jeu, eh bien, Mathias Belair, que vous venez d'entendre, comédien étonnant et ici extrêmement troublant. Comment l'avez-vous convaincu ou décidé à jouer ce rôle, ce personnage? Je regarde Axel, c'est pas pour rien.
mon mec.
Parce que c'est vrai que bon, si les auditeurs ne connaissent pas Mathias, c'est quand même on peut le décrire. Décrivez-le. Je vous laisse.
C'est un géant de papier. Ouais, c'est un grand gaillard avec un fichu caractère. Je sais pas quoi. C'est dur de parler de quelqu'un aussi proche de soi.
Et oui, et
Sébastien.
Oui. On va dire que Mathias, c'est un partenaire et un ami de longue date, puisque moi, je l'ai rencontré il y a bien longtemps quand il avait encore un lieu qui s'appelait La Coopérative.
Oh oui, ce sont des bons souvenirs.
Ouais, carrément. Et du coup, effectivement, c'est pour ce projet-là, on avait une évidence. C'est que Mathias était cette voix-là et qu'on savait qu'on avait envie de travailler avec quelqu'un qui était aguerri à ce travail-là, de voix posée sur des nappes électroniques. Et on savait très bien que ce travail, il l'a depuis très longtemps. Il le fait depuis très longtemps, pas forcément dans ses propres productions d'ailleurs, mais c'est quelque chose qu'il a en lui et qui nous intéressait profondément. Donc c'est sur ça qu'on l'a, on va dire, convaincu au départ de venir sur le projet. Et puis ensuite, évidemment, puisqu'il était question du genre, il a fallu qu'on travaille avec lui sur voilà, qu'est-ce que c'était que être quelqu'un d'autre, travailler sur une part peut-être plus féminine à certains moments. Mais quoi qu'il en soit, ça reste Mathias. Enfin, on n'a pas voulu voulu jouer sur quelque chose qui aurait été de l'ordre d'un travestissement absolu. On n'a pas envie d'avoir un Mathias drag queen sur la scène, parce que ce qui nous semble important, c'est que effectivement un homme tel que lui peut porter cette parole trouble, et c'est ce qui est important, c'est que la parole soit trouble et qu'on se dise mais c'est un homme qui nous parle de ça, et à la fois mais s'il nous parle de ça, est-ce que c'est vraiment uniquement un homme, ou est-ce que lui-même est dans cette sorte d'entre-deux? Voilà, c'était toute cette question-là, et il me paraissait le plus adapté. En tout cas, c'était lui vraiment qu'on avait envie de voir porter ce texte-là.
Mmh. Alors, en parlant de troubles, je pense aussi à la scénographie et à la création vidéo qui ont une place aussi essentielle, on va dire, hein, de toute façon. Voilà, alors deux écrans vidéo font écho au jeu du personnage sur le plateau, mais ce n'est pas de simples images diffusées. Là aussi, il y a un travail créatif complexe.
Alors, pour le coup, effectivement, c'est complexe, puisque avant de commencer d'une façon directe le travail théâtral, entre guillemets, le plateau, on a commencé par créer des photographies et des vidéos. Ce travail-là, ce qu'il y a sur le plateau, c'est avant toute chose une espèce d'explosion d'idées, de pensées, de ce personnage-là dans tel rôle ou tel moment de sa vie. C'est une superposition de possibles. C'est un travail qu'on a développé avec Cyril Le Cournet, qui est vidéaste, Alexandre Bénat, qui nous a aidé, qui est un très bon photographe, mais qui nous a aidé aussi à la captation vidéo. Et on a basé ce travail sur un système algorithmique, à savoir que le spectacle dure 1h15, il y a environ 5 heures de vidéo, et pour être précis, c'est découpé en plusieurs actes qui peuvent coïncider avec plusieurs types de paroles ou de points de vue quant à la situation du personnage, que ce soit des points de vue intimes, personnels, ou des points de vue extérieurs, sociaux. L'algorithme, suivant l'aléa, en fait, et les déclenchements sonores, va choisir tel ou tel type d'option vidéo qui va nous donner un autre point de vue sur
donc,
le travail.
Du coup, on peut dire qu'on a une multiplicité d'histoires, et que si un spectateur venait par hasard voir le spectacle deux fois, il se pourrait complètement qu'il ne voit pas les mêmes histoires.
Et qu'il n'entende pas la même chose non plus.
N'entende pas la même chose.
Ah, c'est passionnant.
Voilà.
Ah, ouais.
Et donc, on a travaillé avec un programmeur qui s'appelle David Olivari.
Oui.
Qui nous a aidé à mettre en place justement ce système. Voilà, dans le cadre du DICREAM, qui est une aide du Centre National de la Cinématographie.
Ouais. Donc, je pense que les auditeurs l'ont compris, il s'agit là d'un sacré travail qui vous a demandé presque 3 ans. Hein.
C'est ça. Ouais, c'est-à-dire que quand on monte un projet aussi complexe quelque part à expliquer aux gens. Il faut le temps que effectivement les théâtres et les partenaires comprennent les tenants et les aboutissants.
On a besoin aussi d'un temps nous-mêmes de traversée, de digestion, de transformation. Et c'est vrai qu'on s'attendait pas en démarrant ce boulot qu'il allait nous mener aussi loin dans nos questionnements, dans nos recherches, nos découvertes. On a fait sur ces quelques années un travail à la fois d'universitaire, de chercheur, d'élève aussi, et puis de créatif, c'est vrai, mais surtout ça a été pour nous un
champ de recherche beaucoup plus large que juste une mise en scène.
Quoi. Oui. Alors, vous avez d'autres dates, est-ce que vous pouvez nous les donner ?
Donc, excepté la première donc, qui se fera le 27 février à 20h au Chez du Terral à Saint-Jean-de-Védas, nous jouons à Marvejols en Lozère le 3 mars à 20h aussi, 20h30 peut-être. Et enfin, on sera aussi à Nîmes le vendredi 6 mars à 20h. Voilà, au Théâtre du Périscope.
Oui, et puis il y aura une exposition photo en avril. Donc ce sont les photos
Pardon. Alors en fait, si on avait effectivement déjà fait une série de photos pour poursuivre la piste de K1, on a du mal à s'arrêter. Donc du coup, pour clore K1, on fait une nouvelle série effectivement qui pour nous va clore ce parcours lors des du off des boutographies. Au lieu multiple, oui.
Voilà, et où on a décidé, pareil, encore une fois,
d'inviter, de
confronter notre propre travail plastique, puisqu'avec Axel, depuis
plusieurs années,
ouais, on travaille sur une sorte de duo qui se photographie. Enfin, voilà, duo, une personne double aussi. Et voilà, donc on a invité Stéphane Despax et Alexandre Bénat à venir exposer avec nous sur ce thème-là. Et donc ce sera encore un regard croisé et multiple sur ces questions-là.
Axel, Sébastien, un grand, grand merci. Nous faisons la transition avec la seconde partie, avec un nouvel extrait donc de K1. Il s'agit du groupe Labrador. Et puis on se retrouve très, très vite en compagnie de Sébastien Paul pour le Festival Tropisme.
Merci Annick.
Merci. Merci.
Sur le réseau FM+. Donc Scénorama, c'est tous les vendredis à 10h10, avec rediffusion le samedi à 12h10, et écoutable en podcast sur fmplus.org. Sébastien Paul, vous êtes président du festival Tropisme, et avec Vincent Cavaroc, qui est donc à la direction artistique, Vincent, travaillant à la Gaîté Lyrique à Paris. Vous faites partie des têtes pensantes de cet événement héritier du festival 100%. Et donc, j'aimerais que vous nous présentiez la structure Illusion Macadam, puisque c'est quand même grâce à vous hein, que ce festival existe. Et il est, une émanation du festival donc 100%, si vous voulez bien nous faire un petit historique de tout ça.
Bonjour. Alors, bonjour. En effet, le festival 100%, la plupart des Montpelliérains ont entendu parler de ce festival ou l'ont pratiqué. Il a connu beaucoup d'évolutions parce que moi, je fais partie des fondateurs, mais je suis arrivé juste tout de suite après sur le festival. Le festival, il émanait du Caucasine, Bobby que tout le monde connaît, Yves Bomnel, qui a été un des instigateurs, mais pas seulement. Et assez vite, on s'est rencontré avec Bobby. Et j'ai participé pas les premières, mais la seconde et troisième édition. Et à cette époque-là, on était au domaine de Gramont, dans des chapiteaux, avec de la musique qu'on pourrait qualifier de jeune.
C'était rôde, c'était bien.
C'était ça, voilà, il y avait de la boue et tout ça.
Voilà.
Il y avait des buvettes, enfin bref, plein de grands souvenirs. Donc ça, c'est des choses qui, moi aussi, m'ont forgé. C'était mon arrivée à Montpellier. Et donc, j'ai participé à ces aventures-là. Bobby, évidemment, était toujours là. J'ai même été président du festival. Donc, il y a eu une évolution logique. On a fait ces choses-là ensemble. Et le festival, il a évolué. Il est devenu urbain à un moment, c'est-à-dire qu'il n'était plus à Gramont, il était au centre-ville de Montpellier, dans divers lieux, Saint-Ravi et d'autres. Et puis il y a des gens qui sont rentrés, qui ont amené d'autres esthétiques. Et on s'est acheminé peu à peu vers les arts plastiques, les arts numériques, des dimensions musicales peut-être moins festives, un peu plus rock, un peu plus pop, un peu plus électro. Donc le festival, il a muté en 12-13 ans, parce que nous aussi on a changé, c'est comme ça, c'est la vie, hein, une aventure comme ça. Donc le festival s'est transformé, et puis il y a 2 ans, on a fait le choix, avec Bobby toujours, qui était toujours là, de reprendre le festival au sein de Illusion Macadam. Donc Illusion Macadam, c'est une structure qui a deux versants d'activité. Ces deux versants, on les retrouve dans le festival, hein, Tropisme. Le premier versant, c'est d'accompagner les acteurs culturels à se pérenniser, à se professionnaliser, à se structurer. Et ça, on le fait par des actions de conseil, de formation et autres. Et deuxième volet, c'est d'être nous-mêmes un producteur d'œuvres d'art numérique, d'œuvres de danse. Donc on est nous-mêmes un producteur, un acteur culturel. Et c'est le festival, pour nous, on s'est vite dit avec Bobby qu'il fallait faire un festival 100% New Look, nouvelle génération. On a décidé de changer de nom, changer d'identité, de l'appeler donc Tropisme, et de beaucoup plus le marquer vers ce qui était devenu le 100%. C'est un festival autour des arts plastiques, des arts numériques, un festival en plein dans son époque, une époque de mutation, de transition, on en parle beaucoup. Et c'était aussi pour Illusion Macadam l'occasion de rassembler tout ce qu'elle fait au quotidien, c'est-à-dire d'accompagner les acteurs avec tout un volet de rencontres, plutôt destinées aux professionnels, mais pas que, on y reviendra un peu, il y a des événements qui sont grand public, quelques-uns, et puis tout un volet de production artistique autour de l'art à l'ère du numérique.
Oui, alors c'est la première fois que Tropisme a un sous-titre. Il s'agit de Machine à habiter, en référence à Le Corbusier.
Tout à fait. Alors là, c'est vraiment lié à cette édition-là. Pour ceux qui ont vécu Tropisme première édition en février 2014, il y a des choses qui vont se retrouver, mais c'est complètement un autre projet. On était l'année dernière un tout petit peu à la panacée pour un plateau média où on jouait par exemple Orion Scovi, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis cette année, le projet est complètement différent parce qu'il est évidemment très différent dans la nature. C'est un projet de 3 semaines, donc c'est pas une exposition, ça, c'est des mots qu'il faut qu'on bannisse. Nous n'aurons pas de vernissage et pas d'exposition. Ce sera un lancement le 24, et puis ce n'est pas une exposition, mais c'est plutôt une installation géante, un dispositif à vivre, une expérience à vivre pour le spectateur. Donc ce n'est pas une exposition, contrairement peut-être à ce qu'on a fait l'année dernière à l'École des Beaux-Arts. C'est une rencontre avant tout avec un collectif protéiforme, un collectif qui s'appelle Exist, que vous connaissez sûrement parce qu'ils ont fait beaucoup de choses assez marquantes dans le monde de l'art, de l'architecture, notamment avec la Biennale de Venise où ils ont transformé le pavillon français en 2006, en travaillant avec Patrick Bouchain en ce sens. Donc c'est un collectif qui est protéiforme, des botanistes, des DJ, des architectes, des urbanistes. C'est les équipes telles qu'on les vit actuellement, des équipes multidisciplinaires comme on dit. Et là, ils avaient envie de on a eu envie de leur donner carte blanche pour réagencer, transformer la Panacée, qui est un lieu que vous connaissez tous, et vous verrez qu'elle sera très différente de vos souvenirs pour cette réouverture.
Alors il faut préciser que, hélas, c'est leur dernière grande manifestation à Existe.
Oui, tout à fait. Pour diverses raisons, ils ont choisi de signer là leur dernier geste, acte artistique. D'ailleurs, vous le verrez, il y a une logique aussi chez eux de revisiter tout ce qu'ils ont fait depuis plus de 10 ans. Donc, il y a beaucoup d'éléments, de choses qu'ils ont fait, travailler. C'est un peu, si je peux m'exprimer comme ça, un best-of. C'est un peu un best-of de Existe que vous pourrez voir. Et il y a une volonté chez eux aussi de documenter le travail qu'ils ont fait depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il y aura, à l'issue de ça, sûrement une publication qui sera faite, qui s'inspirera beaucoup de ce qui se passera à la Panacée. Il faut imaginer comme une compagnie, une troupe donc voilà, d'architectes, d'urbanistes, de DJ qui va venir pendant 3 semaines dans un lieu d'art, la Panacée. Il y a déjà beaucoup de construction, là. J'étais hier, il y a des échafaudages, du bois, donc ils sont en train de construire un petit univers, cette fameuse machine à habiter. Et puis pendant 3 semaines, ça va vivre. C'est-à-dire qu'on parle d'Existe, mais c'est aussi Existe and Friends, comme on a mis souvent dans la communication. C'est-à-dire qu'ils ont, depuis 10 ans, croisé plein de gens, des architectes, des consultants, des artistes, beaucoup de monde qui va venir durant ces 3 semaines pour leur rendre, peut-être faire une dernière visite, parce que après ils vont splitter, ils vont mener des carrés individuels. Si vous connaissez 1024 Architecture, c'est une émanation d'Existe, par exemple, c'est eux qui ont fait le bar de la Panacée en bois, la structure. Donc c'est une dernière, on est content de le faire avec eux, mais c'est le début d'une autre histoire pour tous.
Ma tête me convaincre de ces continents isolés où les contrées bûchaient ses reintes. De l'inconvénient d'être là, j'ai laissé ma tête en désordre par le passé, baisser les bras avant qu'on me rappelle à l'ordre. Et c'est pour ça, je voulais savoir si dans ton cœur
y'a pas du feu, y'a pas du faux. Tous ceux qui t'aiment te poussent à l'eau, tous ceux qui t'aiment te tournent le dos. Y'a pas les rêves.
Et c'est pour ça, je voulais savoir si dans ton cœur
y'a pas du feu, y'a pas du faux. Ceux qui t'aiment te poussent à l'eau, ceux qui t'aiment te tournent le dos. Y'a pas les rêves, y'a pas les mots, y'a pas la peur, les animaux.
Ace Holiday, c'est un groupe qui est dans le cadre des Inroclab. Les Inroclab, c'est un concours assez connu, ça s'appelait CQFD à une époque. C'est un concours qui a révélé Sid Matters ou Christine and the Queens récemment. Donc ce concours, en fait, c'est des groupes qui sont en développement, qui participent. Et on leur a donné à eux aussi carte blanche, c'est un peu festival des cartes blanches. Il y a donc 6 groupes qui vont être programmés à la Panacée, oui, à la Panacée, dans ce qu'on appelle le Club 25. C'est un espace qui sera ciné-club et qui sera aussi concert. Donc c'est un espace d'exposition qui sera transformé, qui aura une autre fonction. Et donc le Holiday sera le 6 mars à 19h30. Tous les concerts des Inroclab seront les mercredis à 19h30 et les vendredis à 19h30.
Parfait. Donc Tropisme, c'est un festival, vous l'avez compris, d'art numérique, mais aussi de musique. Et Trois rencontres sont importantes, enfin, à signaler à nos auditeurs, n'est-ce pas?
Tout à fait. Alors, Tropisme, c'est un festival qui se pose des questions sur l'avenir, sur le futur, la prospective. Il y a un grand nombre de rencontres qui sont dédiées plutôt aux acteurs du secteur culturel sur des questions de mutation, de transformation du secteur. Mais il y en a trois qu'on peut mettre en avant parce qu'elles sont beaucoup plus grand public, elles intéressent, je crois, tout le monde. On s'est dit, on voulait commencer un cycle de travail avec ce qu'on appelle les métiers de demain, parce qu'à travers un métier qui pourrait être un métier qui va se développer demain, on touche à beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux. Donc, les trois métiers qu'on a choisis cette année, c'est l'agriculteur urbain, donc l'agriculteur vertical, c'est-à-dire que ça veut dire que demain, nous, habitants en ville, on serait peut-être aussi agriculteurs, on cultiverait une partie de ce qu'on va manger, donc c'est un enjeu intéressant, donc c'est la nourriture de demain qui nous intéresse derrière tout ça. C'est le 28 février à 10h, c'est samedi matin, donc c'est pour ça que c'est ouvert à tous, évidemment. Les deux autres rencontres sont autour du musicien de demain, on l'appelait le cybermusicien, et la troisième, elle est autour de ce qu'on appelle le transmédia, c'est-à-dire une forme de cinéma qui rencontre Internet et rencontre le code et la programmation informatique.
D'accord. Donc entre conférences, débats, autres discussions, eh bien comme nous l'avons dit, Tropisme se veut aussi un festival de musique. Nous avons entendu un premier groupe. Je vous propose un deuxième. Donc voilà, dans le cadre des concerts, mais aussi des dimanches dance floor et aussi d'une soirée dont on vous parlera ensuite au Rockstorm et au HTH aussi.
Voilà, c'était Juliette Armanet, qui est une artiste qui sera programmée aussi dans le cadre des Un Rock Lab avec un morceau « Amour en solitaire ».
Très bien. Alors, durant ces trois semaines, le lieu va bouger en permanence au niveau de la prise de l'espace. Un gros, gros challenge pour tout le monde. Comme vous l'avez dit, les amis artistes d'Exist seront présents. Alors, il y aura donc un échange de savoir-faire permanent. Et donc, j'aimerais que vous nous donniez, Sébastien Paul, quelques exemples de ce que le public pourra voir ou à quoi il pourra participer.
Alors avec Exist, on a voulu travailler sur des fonctions liées à habiter, cette fameuse machine à habiter. Donc on a dit tout à l'heure, il y aura un espace de concert, un espace de ciné-club, il y aura un sauna. On pourra donc amener sa serviette et puis passer un petit moment dans le sauna.
Alors il paraît que Philippe Sorel, pour le lancement de ce festival, va essayer le sauna.
Eh bien, si c'est pas pour le lancement, ce sera forcément un autre moment. Il y aura en effet un sauna. Il y aura un espace que Exist va concevoir qu'on appelait le dortoir. Vous pourrez aussi faire des siestes sonores en écoutant une programmation de Phone Radio. Voilà, il y aura aussi, parce que habiter c'est travailler, il y aura un bureau où vous pourrez venir coworker. Enfin, il faut se rendre compte qu'il faudra venir à la Panacée, il y aura des événements, il y aura des rencontres, il y aura des performances, il y aura tout ça, des concerts, mais il y aura aussi, vous pourrez travailler, manger, parce qu'évidemment le café café sera très actif. Il y a beaucoup d'événements qu'on a appelés trop food, qui sont des performances culinaires, des tables d'hôtes, des marchés. Il y aura des rencontres avec des producteurs qui vont faire déguster leurs produits.
Tropine, c'est aussi pour les enfants, vous ne les avez pas oubliés.
Tout à fait, donc il y a évidemment une programmation pour les enfants avec une œuvre qui est vraiment emblématique, qui sera la pincée, qui s'appelle The Giant Map. C'est une œuvre que je vous invite vraiment à faire pour les petits et les grands. C'est une œuvre où, avec une interactive où vous pouvez, les enfants peuvent écraser une carte sur Google Maps, donc ça marche très 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 bien, ça fonctionne très très bien. Il y a aussi, tu l'as dit, des arts numériques. Il y a un projet qui va, ça va pas commencer dès le 25, ça va commencer dès le 4 mars, qui s'appelle Fenêtre Augmentée, qui est un projet que tous les Montpelliérains vont reconnaître. C'est une grande tablette tactile où il y a des œuvres interactives qui ont été créées sur le paysage de la place de la Comédie, une place bien connue à Montpellier évidemment. Donc voilà, un ensemble d'événements, sans oublier peut-être un espace qu'on a appelé Media Lab, où il y aura un journal qui s'appelle Ouzbek Erika. Ouzbek Erika, qui est un journal sur le futur, la prospective, qui viendra faire une gazette du futur sur la dernière semaine du festival.
D'accord. Donc là, nous entendons ces zombies que nous entendons. Très bien, alors là, zombies, il faut absolument en parler, puisque le public pourra les découvrir au HTH, dans le cadre d'une soirée 3 en 1.
Tout à fait, zombies, donc Étienne Jaumet, assez connu, très connu. Hein. Donc il y aura une soirée spéciale au HTH, au Centre Dramatique National des 13 Vents, où il y aura un ciné-concert qui a été joué que très peu de fois, dont au Louvre la dernière fois. Donc c'est zombies qui s'attaque au film de Jean Pain Levé, qui est un peu une icône pour les films surréalistes sur les animaux marins. Donc zombies relève le défi, s'attaque à ce cinéma dans le cadre d'un ciné-concert, et il y aura dans le cadre de cette soirée zombie, Jean-Paul Levé, aussi un DJ set de Étienne Jaumet juste après la soirée.
Oui, donc c'est à 21h, il vous en coûtera, c'est entre 5 et 20 euros.
Et 20 euros, le tarif du HTH.
Voilà, il n'y a que deux soirées payantes, donc celle-ci et la soirée du 14 mars, mais quelle soirée ?
Alors le 14 mars, c'est une autre carte blanche, c'est la dernière qu'on a donnée, un label qui est un label parisien, très connu amateur de musique électronique, qui s'appelle Versatile. Et donc là, dans cette soirée, on aura donc Gilbert, qui est le boss du label, on aura Acide Arabe, qui est un duo, et nous aurons aussi Joachim, qui est le boss du label Tiger Sushi, mais qui a signé pas mal de choses sur Versatile. Donc voilà, c'est une grosse nuit électro, ça commence à 23h au Rockstore et jusqu'à 5h du matin.
Oui, et là, il vous en coûtera 14 euros. Donc toutes les informations sur le site Tropisme Festival .fr et donc voilà, sachant que le principal se passe à la Panacée et que là tout est en entrée libre, donc vous pourrez passer vos journées et une partie de vos nuits
et revenir.
Et bien écoutez, Sébastien Paul, un grand merci, à bientôt.
Merci
à Manu qui est à la technique aujourd'hui, et merci à vous chers auditeurs, à vendredi prochain.